Les grandes espérances, deuxième partie, chapitre 24. Il faisait nuit noire, quoique la pleine lune commençât à se lever, au moment où je quittais les terrains cultivés pour entrer dans les marais. Au-delà de leur ligne sombre, il y avait un ruban de ciel clair, à peine assez large pour contenir la pleine lune rouge de feu. En quelques minutes, la lune avait disparu de ce champ clair, derrière des montagnes de nuages amoncelés les uns sur les autres. Il soufflait un vent mélancolique et les marais étaient impossibles à voir. Un étranger les eût trouvés horribles, et même pour moi, ils étaient si navrants que j'hésitais et que je me sentis à demi disposé à retourner sur mes pas. Mais je les connaissais bien, et j'y aurais trouvé mon chemin par une nuit encore plus noire. D'ailleurs, étant venu jusque-là, je n'avais vis-à-vis de moi-même nulle excuse pour retourner sur mes pas. J'étais venu contre mon gré, je continuais même presque involontairement. Le chemin que je pris n'était pas celui où se trouvait notre ancienne demeure, ni celui par lequel nous avions poursuivi les forçats. En marchant, je tournais le dos au ponton lointain, et bien que je pusse voir les vieilles lumières au loin sur les bancs de sable, je les voyais par-dessus mon épaule. Je connaissais le four à chaud, aussi bien que la vieille batterie, mais ils étaient éloignés de plusieurs milles l'un de l'autre. De sorte que, si l'on avait allumé une lumière à chacun de ces points, il y aurait eu un long espace noir entre les deux clartés. D'abord, j'eus à fermer quelques clôtures après moi, et de temps à autre, à m'arrêter pendant que les bestiaux couchés dans le sentier à talus se levaient et se jetaient tout effarés parmi les herbes et les roseaux. Mais peu après, il me sembla que j'avais toute la plaine à moi seul. Il se passa encore une demi-heure avant que j'arrivasse au four à chaud. La chaux brûlait avec une odeur lourde et étouffante, mais les feux étaient éteints et abandonnés, et l'on ne voyait aucun ouvrier. Tout près de là était une petite carrière. Elle se trouvait sur mon chemin. On y avait travaillé dans la journée, ainsi que je le vis aux brouettes et aux outils disséminés çà et là. En me retrouvant au niveau des marais, hors de cette excavation que le sentier traversait, je vis une lumière dans la vieille maison de l'éclusier. Je hâtai le pas et frappai à la porte. En attendant une réponse, je regardai autour de moi et je remarquai que l'écluse avait été abandonnée et brisée et que la maison, qui était en bois, avec un toit en tuiles, ne supporterait pas longtemps les injures du temps, si même elle les supportait encore, et que la boue et la vase étaient recouvertes de chaux, et que la vapeur étouffante du four m'arrivait sous des formes étranges. Cependant, on ne répondait pas. Je frappais de nouveau. Pas de réponse. J'essayais le loquet. Il se baissa sous ma main et la porte céda. En regardant à l'intérieur, je vis une chandelle allumée sur la table, un banc et un matelas sur un bois de lit à roulettes. Comme il y avait un grenier au-dessus, j'appelai et je criai
« Y a-t-il quelqu'un ici ?»
N'obtenant pas encore de réponse, je revins à la porte, ne sachant que faire. Il commençait à pleuvoir très fort. Ne voyant rien que ce que j'avais déjà vu, je rentrai dans la maison et me tins à l'abri sous la porte, regardant au dehors dans l'obscurité. Tandis que je me disais que quelqu'un avait dû venir ici récemment et devait bientôt y revenir, sans quoi la chandelle ne brûlerait pas, il me vint à l'idée de regarder si la mèche était longue. Je me tournai pour m'en assurer, et j'avais pris la chandelle dans ma main quand elle fut éteinte par une violente secousse. Et la première chose que je compris, c'est que j'avais été pris dans un fort nœud coulant, jeté de derrière par-dessus ma tête.
« Maintenant, »
dit en jurant une voix comprimée, « je le tiens. »« Qu'est-ce ? » m'écriai-je en me débattant. « Qui est-ce ? Au secours ! Au secours ! Au secours !» Non seulement j'avais les bras serrés contre mon corps, mais la pression sur mon bras malade me causait une douleur infinie. Parfois, une forte main d'homme, d'autres fois, une forte poitrine d'homme était posée contre ma bouche pour étouffer mes cris, et toujours une haleine chaude était près de moi. Je luttais sans succès dans l'obscurité pendant qu'on m'attachait au mur.
« Et maintenant, dit la voix comprimée avec un autre juron, appelle au secours, et je ne serai pas long à en finir avec toi. »
Faible et souffrant de mon bras malade, bouleversé par la surprise et voyant cependant avec quelle facilité cette menace pouvait être mise à exécution, je cédais et j'essayais de dégager mon bras, si peu que ce fût, mais il était trop serré. Il me semblait qu'après avoir été brûlé d'abord, on le faisait bouillir maintenant. Des ténèbres absolues, ayant succédé tout à coup à l'obscurité douteuse de la nuit, m'avertirent que l'homme avait fermé un volet. Après avoir cherché à tâtons pendant un instant, il trouva la pierre à fusil et le fer dont il avait besoin, et il commença à battre le briquet. Je fixai ma vue sur les étincelles. Elles tombaient sur une mèche sur laquelle il soufflait, une allumette à la main. Mais je ne pouvais voir que ses lèvres et le point bleu de l'allumette, et encore, je me les figurais plus que je ne les voyais. La mèche était humide, ce qui n'était pas étonnant dans cet endroit, et les étincelles s'éteignaient les unes après les autres. L'homme ne semblait pas pressé, et il continuait de frapper la pierre à fusil et le fer. Comme les étincelles tombaient en grand nombre autour de lui, je pus voir ses mains qui touchaient presque sa figure, et supposer qu'il était assis et penché sur la table, mais rien de plus. Bientôt, je vis ses lèvres bleues souffler de nouveau sur la mèche, et alors un éclat de lumière jaillit et me montra Orlick. Qui m'étais-je attendu à voir? Je ne sais pas, mais ce n'était pas lui. En le voyant, je sentis que j'étais réellement dans une passe dangereuse et jetins mes yeux fixés sur lui. Il alluma résolument la chandelle avec l'allumette enflammée, puis il la laissa tomber et mit le pied dessus. Ensuite, il mit la chandelle à une certaine distance de lui sur la table, de sorte qu'il pouvait me voir, et il s'assit sur la table, les bras croisés, et me regarda. Je découvris que j'étais lié à une forte échelle perpendiculaire, placée à quelques pouces de la muraille et fixée en cet endroit pour aider à monter au grenier.
« Maintenant, dit-il, quand nous nous fûmes regardés pendant quelque temps, je te tiens.
Déliez-moi, laissez-moi partir. »«
Ha ! » répondit-il, « je te laisserai partir. Je te laisserai partir à la lune. Je te laisserai partir aux étoiles, quand il en sera temps.
Pourquoi m'avez-vous attiré ici ? » ?»«
Ne le sais-tu pas, dit-il avec un regard effrayant.
Pourquoi vous êtes-vous jeté sur moi dans l'ombre ?
Parce que je veux faire tout par moi-même. Un seul garde mieux un secret que deux. Oh, mon ennemi, mon ennemi !»
Sa joie au spectacle que je lui donnais, pendant qu'il était assis sur la table, les bras croisés, secouant la tête et se souriant à lui-même, montrait une méchanceté qui me faisait trembler. Pendant que je l'examinais en silence, il porta la main dans un coin à côté de lui et prit un fusil à monture de cuivre.
« Connais-tu cela ? » dit-il, en faisant mine de me mettre en joue. « Sais-tu où tu l'as déjà vu ? Parle, loup !»«
Oui, répondis-je.
Tu m'as pris ma place. Tu me l'as prise. Ose donc dire le contraire.
Pouvais-je faire autrement ?
Tu as fait cela, et cela serait assez, sans plus. Comment as-tu osé te mettre entre moi et la jeune femme que j'aimais ?
Quand l'ai-je fait ?
Quand ne l'as-tu pas fait ? C'est toi qui, constamment devant elle, donnais un vilain renom au vieil Orlick.
C'est vous-même. Vous aviez gagné ce nom vous-même. Je n'aurais pu vous faire de mal si vous ne vous en étiez pas fait à vous-même.
Tu es menteur. Et tu aurais pris n'importe quelle peine et dépensé n'importe quel argent pour me faire quitter ce pays, n'est-ce pas ?
Dit-il en répétant les paroles que j'avais dites à Biddy la dernière fois que je l'avais vu.
« Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Tu n'aurais jamais pu prendre la peine de me faire quitter ce pays plus à propos que ce soir. Ah ! Quand même cela t'aurait coûté 20 fois l'argent que tu as dit. Tout, jusqu'au dernier liard !»
Comme il agitait vers moi sa lourde main et qu'il montrait ses dents en grondant comme un tigre, je sentais qu'il avait raison.
« Qu'allez-vous me faire ? « Je vais, » dit-il, en frappant un vigoureux coup de poing sur la table et se levant pendant que ce coup tombait. « Je vais t'ôter la vie !»
Il se pencha en avant en me regardant fixement, desserra lentement son poing crispé et le passa en travers de sa bouche, comme si elle écumait pour moi, puis il se rassit.
« Tu t'es toujours retrouvé sur le chemin du vieil Orlick depuis ton enfance. Tu vas cesser d'y être, ce soir même. Il ne veut plus entendre parler de toi. Tu es mort. »
Je sentais que j'étais sur le bord de ma tombe. Un instant, je cherchais autour de moi une chance de salut, mais il n'y en avait aucune.
« Plus que cela, » dit-il en croisant encore une fois ses bras et restant assis sur la table. « Je ne veux pas qu'un seul morceau de ta peau, qu'un seul de tes os reste sur la terre. Je vais mettre ton corps dans le four à chaud. Je voudrais emporter deux comme cela sur mes épaules. L'on supposera, après tout, ce qu'on voudra de toi. On ne saura jamais ce que tu es devenu. »
Mon esprit suivit avec une inconcevable rapidité les conséquences d'une pareille mort. Le père d'Estelle croirait que je l'avais abandonné, serait pris et mourrait en m'accusant. Herbert lui-même douterait de moi quand il comparerait la lettre que je lui avais laissée avec le fait que je n'étais resté qu'un moment à la porte de Miss Havisham. Joe et Biddy ignoreraient toujours quel chagrin j'avais éprouvé cette nuit-ci. Personne ne saurait jamais ce que j'avais souffert, combien j'avais voulu être sincère, par quelle agonie j'avais passé. La mort qui se dressait devant moi était horrible, mais bien plus horrible que la mort était la crainte de laisser de mauvais souvenirs après ma mort. Mes pensées faisaient tant de chemin que je me croyais méprisé par les générations à naître, par les enfants d'Estelle et leurs enfants. Tout cela pendant que les paroles du misérable étaient encore sur ses lèvres.
« Eh bien, Lou, dit-il, avant que je te tue comme une bête, ce que j'ai l'intention de faire, et ce pourquoi je t'ai attaché, je veux encore te bien regarder et bien m'exciter. Oh, mon ennemi !»
Il me vint à l'idée de crier encore au secours, bien que personne ne connût mieux que moi la solitude du lieu et le peu d'espoir qu'il y avait d'être entendu. Mais pendant qu'il se repaissait de ma vue, je me sentis soutenu par une haine et un mépris de lui qui scellèrent mes lèvres. Tout bien considéré, je résolus de ne pas le menacer et de mourir sans faire une dernière et inutile résistance. Calmé par la pensée que le reste des hommes est réduit à cette cruelle extrémité, demandant pardon au ciel comme je le faisais, attendri comme je l'étais par la pensée que je n'avais pas dit adieu et ne pourrais jamais, jamais dire adieu à ceux qui m'étaient chers et que je ne pourrais jamais leur donner l'explication ni réclamer leur compassion pour mes misérables erreurs. Et cependant, si j'avais pu le tuer, même en ce moment, je l'aurais fait. Il avait bu et ses yeux étaient rouges et sanglants. À son cou pendait une grande boîte en fer blanc dans laquelle je l'avais souvent vu autrefois prendre sa nourriture et sa boisson. Il porta la bouteille à ses lèvres et but un long coup, et je sentais la liqueur que je voyais filtrer sous son visage.
« Lou, » dit-il en se croisant encore les bras, « le vieil Orlick va te dire quelque chose. C'est toi qui as tué ta mégère de sœur. »
De nouveau, mon esprit, avec son inconcevable rapidité de tout à l'heure, avait épuisé tout ce qui se rapportait à l'attentat commis sur ma sœur, à sa maladie et à sa mort, avant que sa parole lente et hésitante eût formé ces mots.
« C'est vous, scélérat, dis-je. Je te dis que c'est toi. Je te dis que c'est toi qui as été cause de tout, » répondit-il en prenant le fusil et donnant un coup de crosse dans l'espace vide qui se trouvait entre nous. « Je suis arrivé sur elle par derrière, comme je suis arrivé sur toi ce soir. Je l'ai frappée, je l'ai laissée pour morte. Et s'il y avait eu un four à chaud tout près, comme il y en a un près de toi, elle ne serait pas revenue à la vie. Mais ce n'est pas le vieil Orlick qui a fait tout cela, c'est toi. on t'a favorisé, et on l'a maltraité et battu.
Ah, tu vas me le payer. Tu l'as fait. Maintenant, tu vas le payer. »
Il but encore et devint plus furieux. Je voyais à l'inclinaison qu'il donnait à la bouteille qu'il n'y restait presque rien. Je comprenais distinctement qu'il s'excitait avec son contenu à en finir avec moi. Je savais que chaque goutte qu'elle contenait était une goutte de ma vie. Je savais que lorsque je serais changé en une partie de cette vapeur qui arrivait peu à peu jusqu'à moi, comme un dernier avertissement, il ferait comme il avait fait pour ma sœur. Puis il se rendrait en toute hâte à la ville où on le verrait se dandiner et boire dans les tavernes. Ma pensée rapide le poursuivait jusqu'à la ville et se formait un tableau des rues où il se promenait et comparait leur lumière et leur animation avec les marais solitaires, avec la blanche vapeur dans laquelle j'avais été dissous et qui s'étendait sur eux. Non seulement j'aurais pu compter des années et des années pendant qu'il disait une douzaine de mots, mais ce qu'il me disait me représentait des images et non de simples mots. Dans la surexcitation et l'exaltation de mon cerveau, je ne pouvais penser à un endroit sans le voir, ni à n'importe quelle personne sans les voir. Il est impossible de peindre la vivacité de ces images. Et cependant, je suivais Orlik des yeux avec autant d'attention pendant tout ce temps que le tigre prêt à s'élancer sur sa proie. Je voyais jusqu'au plus léger mouvement de ses doigts. Quand il eut bu cette seconde fois, il se leva du banc sur lequel il était assis et poussa la table de côté. Puis, il prit la chandelle et, se formant un abat-jour avec sa main meurtrière, de manière à renvoyer la lumière sur moi, il se tint debout devant moi, me regarda et parut se repaître de ma vue.
« Loup, je vais te dire quelque chose de plus. C'est le vieil Orlik que tu as heurté sur ton escalier l'autre nuit. » Dans le temple.
Je vis l'escalier avec ses lampes éteintes. Je vis l'ombre de la massive rampe projetée sur la muraille par la lanterne du veilleur de nuit. Je vis les chambres que je ne devais jamais plus revoir. Ici, une porte entrouverte. Là, une porte fermée. Tous les meubles, ça et là.
Et pourquoi le vieil Orlik était-il là? Je vais te dire quelque chose de plus, loup. Toi et elle m'avait si bien chassé de ce pays, en m'empêchant d'y gagner ma vie, que j'ai choisi de nouveaux compagnons et de nouveaux maîtres. Les uns écrivent mes lettres quand j'en ai besoin, entends-tu? Écrivent mes lettres, loup, écrivent 50 écritures. Ce n'est pas comme ton faquin d'individu qui n'en sait écrire qu'une. J'ai eu la ferme intention et la ferme volonté de t'ôter la vie. « Depuis que tu es venu ici, à l'enterrement de ta sœur, je n'ai pas trouvé le moyen de me saisir de toi, et je t'ai suivi pour connaître tes allées et venues. Car, s'est dit le vieil Orlik en lui-même, d'une manière ou d'une autre, je l'attraperai. Et quoi, en te cherchant, j'ai trouvé ton oncle Provis.
Le moulin du bord de l'eau, le bassin aux écus et la vieille corderie, le tout si clair et si net, Provis dans sa chambre, et le signal convenu, la jolie Clara, la bonne femme si maternelle, le vieux Bill Barley sur son dos. Le tout passa devant moi comme le cours rapide de ma vie en descendant promptement vers la mer.
« Mais je te tiens, et ton oncle aussi. Quand je t'ai connu chez Gargery, tu étais un loup si petit que j'aurais dû te prendre le cou entre ce doigt et le pouce et t'étrangler, comme j'ai pensé souvent à le faire. Quand je te voyais flâner parmi les joncs le dimanche, et tu n'avais pas encore trouvé d'oncle, toi, dans ce temps-là. Mais pense à ce que le vieil Orlik a éprouvé lorsqu'il a entendu dire que ton oncle Provis avait probablement traîné le fer que le vieil Orlik avait ramassé, limé en deux dans ses marais il y a tant d'années, et qu'il a gardé jusqu'au jour où il s'en est servi pour assommer ta sœur comme un bœuf, et comme il entend t'assommer, hein? Quand il a entendu cela, hein?
Dans sa sauvage raillerie, il approcha la chandelle si près de moi que je tournai la tête de côté pour me garantir de la flamme. « Ha !
s'écria-t-il en riant, après avoir recommencé cette cruelle plaisanterie. « Les enfants brûlés craignent le feu. Le vieil Aulik a su que tu avais été brûlé. Le vieil Aulik a appris que tu voulais faire partir ton oncle Pravis en contrebande. Et le vieil Aulik, qui est un second toi-même, a su que tu viendrais ce soir. Maintenant, je vais te dire quelque chose de plus, loup, et ce sera tout. Il y a des gens qui ont été pour ton oncle Pravis ce que le vieil Aulik a été pour toi. Qu'ils prennent donc garde à eux, quand il aura perdu son neveu, quand personne ne pourra trouver une seule loque des vêtements de son cher parent, ni un seul os de son corps. Il y en a qui ne veulent pas et ne peuvent pas souffrir que Magwitch, oui, je sais son nom, vive sur la même terre qu'eux, et qu'ils l'ont connu quand ils vivaient dans un autre pays, qu'ils ne devaient pas et ne pouvaient pas quitter à leur insu sans les mettre en danger. Peut-être ce sont eux qui écrivent 50 écritures. Ce n'est pas comme ton faquin d'individu qui n'en écrit qu'une. Oui, nous connaissons Compeyson, Magwitch et les galères.
Il approcha encore une fois la chandelle sur moi, enfuma mon visage et mes cheveux, et pendant un instant m'aveugla. Puis il me tourna son large dos et replaça la chandelle sur la table. J'avais fait mentalement ma prière, et j'étais avec Joe, Biddy et Herbert avant qu'il se retournât vers moi. Il y avait un espace vide de quelques pieds entre la table et le mur opposé. Dans cet espace, il allait et venait continuellement. Sa grande force semblait redoubler pendant qu'il se mouvait ainsi avec ses mains pendantes, lâches et lourdes à ses côtés, et avec ses yeux furieux fixés sur moi. Il ne me restait pas le moindre espoir. Malgré la violence de mon agitation intérieure et la vigueur surprenante des images qui surgissaient en moi au milieu de pensées tumultueuses, je pouvais cependant comprendre clairement que, s'il n'avait pas été bien résolu à me faire périr dans quelques moments, à l'insu de tout être humain, il ne m'aurait jamais dit ce qu'il venait de me dire. Tout à coup, il s'arrêta, ôta le bouchon de sa bouteille et le jeta au loin. Tout léger qu'il était, je l'entendis tomber comme un plomb. Il avala lentement, en soulevant la bouteille par degrés, et alors il ne me regarda plus. Puis il versa les quelques dernières gouttes de liqueur dans le creux de sa main et les absorba avec une violence saccadée et en jurant horriblement. Il jeta ensuite la bouteille loin de lui, se baissa, et je vis dans sa main un maillet à manche long et lourd. La résolution que j'avais prise ne m'abandonna pas. Sans lui adresser un seul mot d'inutile prière, je me mis à crier de toutes mes forces. Je ne pouvais remuer que ma tête et mes jambes, mais je me débattais avec toute la force que j'avais en moi et qui m'était jusque-là inconnue. Au même moment, j'entendis des cris répondant aux miens. Je vis des figures et un rayon de lumière se précipiter par la porte, et je vis Aulik se dégager du milieu d'un amas d'hommes, franchir la table d'un bond comme une trombe et disparaître dans l'obscurité. Après un certain temps, je revins à moi, et je me trouvai couché, dégagé de mes liens, sur le plancher, la tête appuyée sur les genoux de quelqu'un. Mes yeux étaient fixés sur l'échelle dressée contre le mur. Ainsi, en reprenant connaissance, j'appris que j'étais encore à l'endroit où je l'avais perdu. Trop indifférent d'abord, même pour regarder qui me soutenait, je restais étendu regardant l'échelle, quand une figure vint se placer entre elle et moi. C'était la figure du garçon de Trab. « Je crois qu'il est mieux, » dit le garçon de Trab d'une voix douce. « Mais comme il est encore pâle, hein ?» À ces mots, le visage de celui qui me soutenait vint se placer devant le mien, et je vis que celui qui me soutenait était mon ami.
« Herbert ? Bon Dieu !
Doucement, » dit Herbert. « Doucement, Handel, ne vous agitez pas.
Et notre vieux camarade Startop ! M'écriai-je, comme lui aussi se penchait sur moi.
« Souvenez-vous de l'affaire pour laquelle il va nous aider, » dit Herbert, « et soyez calme. »
Cette allusion me fit redresser, mais la douleur que me causa mon bras me fit retomber.
« Le moment n'est pas passé, Herbert, n'est-ce pas? Quel jour sommes-nous? Depuis combien de temps suis-je ici ?»
Car j'avais l'étrange et fatal sentiment que j'étais resté étendu là pendant longtemps, un jour et une nuit, deux jours et deux nuits, peut-être plus.
« Le moment n'est pas passé. Nous sommes encore à lundi soir. »«
Ah, Dieu soit béni !»«
Et vous avez toute la journée de demain mardi pour vous reposer, » dit Herbert.
« Mais vous ne cessez pas de gémir, mon cher Handel. Quelle blessure avez-vous? Pouvez-vous tenir debout ?»«
Oui, oui, » dis-je, « je puis marcher. Je n'ai d'autre blessure que la douleur que me cause ce bras. »
Ils le mirent à nu et firent tout ce qui était en leur pouvoir pour me soulager. Mon bras était considérablement enflé et enflammé. Je pouvais à peine supporter qu'on y touchât, mais ils déchirèrent leur mouchoir pour me faire de nouveaux bandages et le replacèrent soigneusement dans l'écharpe, jusqu'à ce que nous puissions gagner la ville et nous procurer une lotion calmante pour mettre dessus. En peu de temps, nous eûmes fermé la porte de la maison de l'écluse, que nous laissions sombre et déserte, et nous repassions par la carrière pour rentrer en ville. Le garçon de Trabb, maintenant le commis de Trabb, marchait en avant avec une lanterne. C'était sa lumière que j'avais vue paraître à la porte, mais la lune était beaucoup plus haute que la dernière fois que je l'avais vue. Le ciel et la nuit, bien que pluvieuses, étaient beaucoup plus clairs. La vapeur blanche de la chaux passait devant nous. Pendant que nous marchions, et comme auparavant j'avais mentalement fait une prière, je fis alors une action de grâce. Suppliant Herbert de me dire comment il était venu à mon secours, ce que d'abord il avait positivement refusé de faire en me recommandant de rester tranquille, j'appris que, dans ma précipitation, j'avais laissé tomber la lettre anonyme dans notre appartement, où, en rentrant avec Startup, qu'il avait rencontré dans la rue, il l'avait trouvée très peu de temps après mon départ. Le ton de la lettre l'avait inquiété, surtout à cause du peu de rapport qu'il y avait entre ce qu'elle disait et les quelques lignes que je lui avais laissées. Son inquiétude croissant, au lieu de céder après un quart d'heure de réflexion, il était parti pour le bureau des voitures avec Startup, qui n'avait pas mieux demandé que de l'accompagner, pour demander à quelle heure partait la première voiture. Voyant que la voiture de l'après-midi était partie, et trouvant que son inquiétude se changeait positivement en alarme à mesure qu'il rencontrait des obstacles, il avait résolu de partir en poste. Donc, Startup et lui étaient arrivés au Cochon Bleu, contents m'y trouver, ou au moins avoir quelques nouvelles de moi. Mais ne trouvant rien du tout, ils s'étaient rendus chez Miss Havisham, où ils avaient perdu mes traces. Après cela, ils étaient retournés à l'hôtel, au moment sans doute où j'écoutais la version locale et populaire de mon histoire, pour prendre quelques rafraîchissements et se procurer quelqu'un qui pût les guider dans les marais. Parmi les personnes qu'ils trouvèrent, sous la porte du Cochon Bleu, se trouvait justement le garçon de Trabb, fidèle à son ancienne coutume de se trouver partout où il n'avait pas besoin d'être. Et le garçon de Trabb m'avait vu partir de chez Miss Havisham dans la direction de mon auberge. Le garçon de Trabb s'était donc fait leur guide et ils étaient partis avec lui pour la maison de l'écluse, mais par le chemin de la ville au marais que j'avais évité. Tout en marchant, Herbert avait réfléchi que je pouvais, après tout, avoir été appelé là dans un but qui importait à la sûreté de Provis, et pensant que, dans ce cas, il ferait peut-être mal de me déranger. Il avait laissé son guide et Startup au bord de la carrière, et s'était approché seul et sans bruit de la maison deux ou trois fois, cherchant à s'assurer si tout se passait bien à l'intérieur. Comme il ne pouvait rien entendre que les sons indistincts d'une voix rude, ceci se passait pendant que mon esprit était tant occupé, il avait fini par douter que je fusse là, quand tout à coup il m'avait entendu crier de toutes mes forces. Il avait alors répondu à mes cris et s'était précipité dans la cabane, suivi de près par les deux autres. Quand je dis à Herbert ce qui s'était passé dans la maison, Il voulut aller immédiatement à la ville trouver un magistrat, malgré l'heure avancée, et obtenir un ordre d'arrestation. Mais j'avais déjà songé qu'une pareille démarche, en nous retenant et en nous empêchant de revenir, pourrait être fatale à Provis. Il n'y avait pas à contester cette difficulté, et nous abandonnâmes toute pensée de poursuivre Olic pour le moment. Dans ces circonstances, nous crûmes prudent de traiter légèrement la chose aux yeux du garçon de Trab, qui, j'en suis convaincu, aurait été fortement désappointé s'il avait appris que son intervention m'avait sauvé du four à chaud. Non pas que le garçon de Trab fût d'une mauvaise nature, mais parce qu'il avait trop de vivacité non employée et qu'il était dans sa constitution de chercher de la variété et de l'excitation aux dépens des autres. En le quittant, je lui fis présent de 2 guinées qui semblaient faire son affaire, et je lui dis que j'étais fâché d'avoir jamais eu une mauvaise opinion de lui, ce qui ne lui fit pas la moindre impression. Le mercredi était si près de nous, nous prîmes le parti de retourner à Londres le soir même, tous les 3, dans la chaise de poste, afin d'être déjà loin si l'aventure de la nuit venait à s'ébruiter. Herbert se procura une bouteille de mixture calmante pour mon bras, et, à force d'en verser sur ma blessure, pendant toute la nuit, il me fut possible de supporter la douleur pendant le voyage. Il faisait jour quand nous arrivâmes au temple. Je me mis au lit immédiatement et j'y restais tout le jour. Je tremblais de tomber malade et d'être impotent pour le lendemain, et je m'étonne que cette crainte seule ne m'ait pas rendu incapable de rien faire. Cela fut arrivé sûrement, avec la fatigue et la torture morale que j'avais endurée, sans la force surnaturelle avec laquelle agissait sur moi l'idée du lendemain de ce jour, considéré avec tant d'inquiétude, chargé de telles conséquences et de résultats impénétrables, quoique si proches. Aucune précaution ne pouvait être plus utile que d'éviter de communiquer avec Provis ce jour-là. Cependant, cela augmentait encore mon inquiétude. Je tressaillais à chaque pas, à chaque bruit, croyant que Provis était découvert et arrêté, et que c'était un messager qui arrivait pour m'en informer. Je me persuadais à moi-même que je savais qu'il était arrêté, qu'il y avait sur mon esprit quelque chose de plus qu'une crainte ou un pressentiment, que le fait était arrivé et que j'en avais une mystérieuse certitude. La journée se passa et aucune mauvaise nouvelle n'arriva. Comme le jour touchait à sa fin et que l'obscurité tombait, ma crainte vague d'être retenu par ma maladie le lendemain s'empara de moi tout à fait. Je sentais battre mon bras brûlant et ma tête brûlante, et il me semblait que je commençais à divaguer. Je comptais jusqu'à des nombres élevés pour m'assurer de moi-même, et je répétais des fragments d'ouvrages que je savais, en prose et en vers. Il arrivait quelquefois que, pendant un court répit de mon esprit fatigué, je m'assoupissais quelques instants et que j'oubliais. Alors, je me disais en me réveillant en sursaut, « Allons, m'y voilà, le délire s'empare de moi. » On me laissa très tranquille tout le jour. On tint mon bras constamment bandé et l'on me fit prendre des calmants. Toutes les fois que je m'endormais, je me réveillais avec l'idée que j'avais eue dans la cabane de l'écluse qu'un long espace de temps s'était écoulé et que l'occasion de sauver Provis était passée. Vers minuit, je me jetai en bas de mon lit et fus trouver Herbert avec la conviction que j'avais dormi pendant 24 heures et que le mercredi était passé. C'était le dernier effort de mon excitation épuisée. Après cela, je dormis profondément. Le mercredi matin commençait à poindre quand je regardais par la fenêtre. Les lumières qui vacillaient sur les ponts avaient déjà pâli. Le soleil levant était comme un lac de feu à l'horizon. Le fleuve, encore sombre et mystérieux, était coupé par les ponts qui prenaient une teinte grise et froide, et çà et là, à la partie supérieure, une touche chaude renvoyée par le ciel en feu. Comme je regardais cet amas de toits, de tours, d'églises et de flèches, s'élevant dans l'air, plus clair que de coutume, le soleil se leva. Un voile parut tout à coup être enlevé de dessus la rivière, et des millions d'étincelles parurent à sa surface. De moi aussi, il me semblait qu'on avait tiré un voile, et je me sentais vaillant et fort. Herbert était endormi dans son lit, et notre vieux camarade d'études était endormi sur le sofa. Je ne pouvais pas m'habiller sans l'aide de quelqu'un, mais je ranimais le feu qui brûlait encore et je leur préparais du café. Bientôt, mes compagnons se levèrent, vaillants et forts aussi, et nous laissâmes entrer par les fenêtres l'air vif du matin, et nous regardâmes la marée qui montait encore vers nous. « Quand l'aiguille sera sur 9 heures, dit Herbert avec entrain, « attention à nous, et tenez-vous prêts, vous, là-bas, au moulin du bord de l'eau. »